Il est 18h.
Combien d'enfants encore doivent mourir pour que les pouvoirs publics agissent enfin? Il faut que Kevin soit le dernier enfant que nous perdions.
Plus d'un millier de personnes ce matin dans la rue au Lila en région parisienne pour rendre hommage à Kevin, lycéen de 15 ans mort poignardé.
L'offensive turque donc, 800 proches de djihadistes étrangers du groupe État islamique ont fui d'un camp au nord de la Syrie, annonce des autorités kurdes qui inquiètent le gouvernement français.
En Corse, un cargo toujours échoué dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.
Les plongeurs sont arrivés et vont pouvoir ausculter la coque, la partie sous-marine du bateau.
Et puis encore 2 heures de vote pour les militants LR, ils choisissent le successeur de Laurent Wauquiez.
La droite n'est pas morte, hein, malgré ce qu'on entend depuis presque 2 ans et demi maintenant.
On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue à tous. Europe 1. Nous commençons, Fabienne, avec l'inquiétude du gouvernement français face à l'offensive turque qui se poursuit dans le nord de la Syrie.
Inquiétude exprimée par la porte-parole du gouvernement sur France 3 après l'annonce des autorités kurdes. 800 proches de djihadistes étrangers de l'État islamique ont pris la fuite, ont annoncé les Kurdes ce matin. Ils se trouvaient dans le camp d'Aïn Issa. Nous retrouvons à la frontière entre la Turquie et la Syrie notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini. Qu'est-ce qui a rendu cette fuite possible, Jean-Sébastien ?
Eh bien, ces 800 personnes semblent avoir clairement profité de la situation de chaos qui règne autour du camp. Tout d'abord, une série de bombardements aux alentours des lieux, puis un départ d'une partie des gardiens. Ils auraient quitté leur poste pour aller appuyer les forces kurdes prises dans les combats à 10 km de là. Profitant de cela, donc, certains de ces proches de Daesh auraient provoqué une émeute, s'en serait pris aux derniers gardiens restés sur place avec l'aide de cellules dormantes de l'organisation djihadiste, des personnes se faisant passer pour des réfugiés. Alors voir ces familles, essentiellement des femmes et des enfants proches des membres de l'État islamique dans la nature, au milieu des combats, c'était la grande crainte des pays occidentaux, la crainte d'une possible résurgence de l'organisation terroriste dans le nord de la Syrie. Une crainte qu'Ankara tente d'apaiser aujourd'hui. La Turquie affirme qu'elle assumera la garde des membres de Daesh et de leurs familles en Syrie, mais sans préciser comment. Et quasiment au même moment, les États-Unis, accusés d'avoir provoqué cette situation en annonçant le retrait de leurs troupes dans la région, persistent. Ils précisent que ce retrait porte sur environ 1 millier de soldats.
Jean-Sébastien Soldaini à la frontière entre la Turquie et la Syrie pour Europe 1. Notez que Washington a annoncé que près d'un millier de soldats américains vont quitter le nord de la Syrie pour éviter de se retrouver pris en étau, dit le chef du Pentagone, entre les Kurdes et les Turcs. Et ce soir, l'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce que les bombardements dans le nord de la Syrie ont fait au moins 26 morts dans la ville frontalière de Ras El Ain, côté syrien. Au moins 10 civils ont été tués dans un raid qui a touché un convoi de civils et de journalistes.
Voilà, dommages et victimes collatérales, la politique d'Ankara, la posture des Occidentaux. On y revient sur l'antenne d'Europe 1 à 19h15 avec le spécialiste de géopolitique Frédéric Ancel. En France, ils ont été plus d'un millier à rendre hommage à Kevin ce matin, au Lila.
Kevin, c'est ce lycéen de 15 ans mort poignardé sous les yeux de plusieurs collégiens lors d'un cours de PS le 4 octobre dernier. Kevin qui se rêvait footballeur professionnel. Et c'est son cousin Kevin qui lui a rendu un hommage très émouvant, vous allez l'entendre, à l'issue de cette marche blanche.
Tout le monde te connaissait, mon Kevin. Tu étais cet enfant, ce frère, ce copain que tous auraient aimé avoir. À 3 ans déjà, tu courais derrière le ballon. Tu tombais, te relevais, tu courais encore et encore, sans pleurer. 10 ans après, ton rêve commençait à voir le jour. Tu étais tellement heureux quand tu as eu ta licence au Red Star. Tu te voyais déjà fouler les pelouses des plus grandes équipes de foot. Qui sait, tu serais peut-être devenu un des plus grands noms du foot français. Mon Kevin, tes rêves sont restés inachevés, car on t'a volé la vie. Mon Kevin, tu n'es plus... Tu n'es plus car en cette matinée du 4 octobre, alors que tu te rendais à une partie de foot avec tes amis, tu as croisé la route de 3 jeunes assoiffés de violence. Tu as été poignardé à ton cœur, ce cœur que tu nous avais ouvert à tous. Combien d'enfants encore doivent mourir pour que les pouvoirs publics agissent enfin? Il est urgent d'agir par des actes concrets. Il faut que Kevin soit le dernier enfant que nous perdions.
Le cousin de Kevin, très émouvant ce matin, l'issue de la marche blanche devant Jean-Gabriel Bourgeois.
Alors qu'on compterait entre 20 et 30 accidents graves par jour à l'école et aux abords de l'école, comme le dit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On en parle avec le co-président de la FCPE dans un instant, Rodrigo Arenas. Direction l'Écosse à présent, où l'homme qui avait été arrêté par méprise vendredi dans l'affaire Dupont de Ligonnès est sorti libre hier du commissariat.
Et on rejoint en Écosse notre envoyée spéciale Pauline Jacquot. On ne sait toujours pas si cet homme a quitté quitter le pays pour rentrer en France.
Oui, ce qui est certain, c'est que la famille du retraité joue la carte de la discrétion. Depuis hier, le clan rapproché de Guy cherche à tout prix à garder une forme d'intimité, de sécurité aussi, après avoir vécu tous les événements de ces deux derniers jours. À l'abri, dans leur pavillon ici, dans ce petit quartier résidentiel. Les rideaux sont à nouveau tirés et on a vu cet après-midi une voiture de police surveiller les abords de la maison. Une maison dans laquelle le couple s'est installé il y a un peu plus d'un an. Guy et sa femme Marie, écossaise, deux personnalités discrètes, disent les voisins. Personne ne les connaissait très bien dans cette ville de Dunoon au sud de l'Écosse. Mais évidemment, depuis cette arrestation spectaculaire, presque tout le monde ici a eu vent de cette histoire. Des mésaventures de cet homme innocent, identifié l'espace de quelques heures par la police, comme étant bien le fugitif recherché Xavier Dupont de Ligonnès. À Dunoon, désormais, les habitants espèrent que la famille pourra retrouver un peu de calme et oublier cette erreur policière qui a choqué ici une bonne partie de la population.
Pauline Jacquot, en Écosse pour Europe 1.
En Corse maintenant, le cargo Rhodanus est toujours bloqué en Méditerranée dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.
Et c'est la nuit dernière, Wendy, qu'il s'est échoué. Pour l'instant, pas de traces de pollution sur zone et une opération pour remorquer le cargo est en préparation, Sophie Echen.
Oui, deux bateaux ont quitté Toulon dans la matinée. Le remorqueur d'intervention et de sauvetage Abeille Flandre et le bâtiment de dépollution Jason. Le but de l'opération est de désenclaver le cargo de 90 mètres. Une opération très délicate car il y a beaucoup de rochers dans cette zone. Arnaud Gillet est sous-préfet de Sartène en Corse du Sud.
Alors la situation a évolué sur deux points. C'est que les plongeurs sont arrivés et vont pouvoir ausculter la coque et donc la partie sous-marine du bateau. Ils ont été héliportés, on les a vus descendre et ils vont rentrer en action pour voir sur quoi il est échoué, etc. Ce qui permettra de faciliter les opérations de désenchouage. Et ensuite, le remorqueur est effectivement en route et vraiment à l'approche du site où on est à l'heure actuelle.
Le navire transportait plus de 2600 tonnes de bobines d'acier à son bord, mais pour l'heure, il n'y aurait pas de risque de pollution. La navigation et les activités nautiques sont encore interdites dans un rayon d'un kilomètre autour du Rhodanus. Le cargo ne devrait pas bouger cette nuit. Les opérations de déjéchouement auront lieu demain matin.
Sophie Echen. Au Japon, le bilan s'est alourdi au fil des heures après le passage du typhon Agibis. Au moins 26 morts et plus de 110 000 secouristes à pied d'œuvre alors que la nuit est tombée pour venir aux habitants piégés par les inondations. On sera au Japon dans le journal de 19h.
Encore 2 heures de vote pour les adhérents LR pour choisir leur nouveau président. 3 candidats étaient en lice pour succéder, vous le savez, à Laurent Wauquiez, Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé.
1 militant sur 4 avait voté à la mi-journée. Claudia Bertram, où en est-on ce soir de la participation?
Eh bien, il y a une heure, la haute autorité du parti enregistre plus de 53 000 votants, soit 40% de participation. Un niveau plus élevé que prévu, puisque ces derniers jours, les cadres de LR tablaient sur 30 à 50 000 personnes. Il y a 2 ans, 100 000 votants avaient élu Laurent Wauquiez, mais autant d'adhérents ont quitté le parti depuis. Les militants restants se sont donc mobilisés aujourd'hui. Certains, croisés au siège des Républicains, se veulent confiants pour l'avenir.
La droite n'est pas morte, hein, malgré ce qu'on entend depuis presque 2 ans et demi maintenant.
Ça sera peut-être un peu long, mais je pense qu'on va arriver à quelque chose.
Mais pour cette autre militante, le nouveau président de LR aura beaucoup de travail pour reconstruire le parti.
Il faut un rassemblement d'abord, parce qu'il part dans tous les sens. Il y a Kawar, Valérie Pécresse est libre, Xavier Bertrand est parti, beaucoup sont partis. Si on rassemble, je pense que les électeurs reviendront.
Autre question centrale ce soir, l'un des 3 candidats parviendra-t-il à obtenir la majorité absolue et à être élu dès le premier tour? Un gage de légitimité. Si ce n'est pas le cas ce soir, un second tour aura lieu le week-end prochain.
Et on l'a dit, encore 2 heures pour voter. Et comme ce sont des votes par Internet, on aura les résultats d'ici une demi-heure après la fin du scrutin, donc vers 20h30.
Affirmatif, chère Fabienne Lemoyle, à la semaine prochaine sur Europe 1.